Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Pandémie de blessures dans la NFL. Les Cowboys évitent la catastrophe. Est-ce que Jerry Jones est rassuré? Les quarts arrière en ce début de saison dominent les défensives adverses. Nos experts nous disent pourquoi. Et Patrick Mahomes contre Lamar Jackson au Monday Night Football cette semaine, qu'est-ce qui peut être meilleur que ça? Bienvenue tout le monde à la zone payante. Jean-Nicolas Gagné avec vous cette semaine, toujours en compagnie de Jean Carrier, ancien entraîneur et analyste des matchs du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut, ça va bien.
Et Stéphane Cadorette, expert football chez nous au Journal de Québec et de Montréal. Salut Stéphane.
Salut.
Deuxième semaine déjà derrière nous. Je vais commencer avec Stéphane. Stéphane, quelle est l'histoire de la fin de semaine?
Ouais, c'est une histoire triste, hein? On aime ça parler de nouvelles positives puis de matchs spectaculaires, mais moi, j'ai pas le choix de retenir l'hécatombe en fin de semaine, les blessures qu'il y a eu, ça a juste pas de bon sens. Je me souviens pas d'avoir vu ça tomber autant comme des mouches. Écoute, on parle de plusieurs saisons terminées, là, que ce soit Saquon Barkley avec les Giants, Nick Bosa et Solomon Thomas, ça fait très mal, deux joueurs de ligne défensive des Niners. Courtland Sutton, receveur à Denver, qui était vraiment sur une pente ascendante. Il y en a, là, je pourrais en nommer plein comme ça. Anthony Barr, secondaire des Vikings. Il y en a un paquet. Ça a été vraiment une fin de semaine difficile. Puis ça me ramène au point que j'amenais la semaine passée. Tu sais, on parlait, là, Jean-Nic, je me rappelle, tu nous demandais ça pourrait être quoi les impacts d'une saison morte réduite, d'un camp d'entraînement réduit, d'allumation des matchs hors concours. Pour moi, tu sais, c'est pas nécessairement là une relation de cause à effet directe. Tu sais, il y a des blessures qui seraient arrivées de toute façon dans une saison normale, mais quand même, le manque de conditionnement par rapport à d'habitude chez certains joueurs, je suis convaincu que ça a son effet. Puis pour moi, écoute, si tu me demandes quelle blessure a le plus d'impact dans tout ça, dans tout ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est assurément Nick Bosa avec les 49ers, parce que on sait, là, Saquon Barkley, c'est une vedette. Christian McCaffrey aussi qui est tombé chez les Panthers, c'est une vedette. Ça fait très mal aux joueurs fantasy, mais les Giants, les Panthers, c'était pas des clubs qui avaient des gros espoirs, là, soyons francs. Là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est pas des clubs qui se voyaient en série pour le Super Bowl. Les Niners avaient toutes les chances de répéter. Tu sais, c'est la même formation que l'an passé ou presque. Nick Bosa, c'est probablement devenu le meilleur joueur des 49ers, pas seulement le meilleur joueur défensif, le meilleur joueur tout court. Il applique la pression tout le temps, c'est un enragé, ça va faire extrêmement mal, ça va tester la profondeur sur la ligne défensive des Niners. Puis il y a beaucoup d'autres blessures à gauche, à droite dans cette équipe-là, tu sais, les deux porteurs de ballon qui sont blessés, Jimmy Garoppolo, le corps arrière qui s'est blessé, George Kittle qui est blessé, Richard Sherman, ça n'arrête pas. Ça risque d'être très, très difficile pour les Niners, d'autant plus, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, que la division de la NFC West est extrêmement compétitive cette année. Les Cards, les Rams, les Seahawks qui sont invaincus en deux parties.
C'est probablement la plus forte, là, sans aucun doute. Là.
Oh, effectivement, c'est pour ça, moi, qu'à mon sens, ces blessures-là chez les Niners font très, très, très mal.
Et malgré tout, ils ont quand même réussi à battre les Jets par deux touchés et plus.
Ouais.
Jean, toi, ton histoire de la fin de semaine?
Écoute, on peut pas retirer ce que les Cowboys ont fait là, en fin de semaine. Écoute, ils perdaient, c'est un retour historique, honnêtement, des Cowboys face aux Falcons. Écoute, j'ai une petite statistique là, qui est quand même impressionnante. Depuis 1993, les équipes étaient 440 victoires, aucune défaite quand ils comptaient 39 points et plus, sans aucun revirement. Et c'est ce que les Cowboys, c'est ce que les Falcons ont fait, et ils ont trouvé le moyen de perdre face aux Cowboys de Dallas. C'est quand même impressionnant. Les Cowboys qui sont revenus de l'arrière de 20 points au premier quart, ben, et 19 à la demi, 15 points, il restait 7 minutes 57 à faire au match. 9 points, il restait 5 minutes. Quand il restait 5 minutes au match, les probabilités statistiques donnaient les Falcons gagnant à 99,9%. Il restait 0,01% pour les Cowboys. Et évidemment, ils ont trouvé le moyen de revenir dans ce match-là. Et de ce qu'on parle beaucoup, ce qui a retenu vraiment l'attention, c'est ce fameux jeu sur les unités spéciales, le fameux short kick, le Botico qui a été recouvert par les Cowboys, où ce que il y a 3-4 joueurs des Falcons qui ont eu la même crampe au cerveau en même temps. Donc ça a été impressionnant. Donc évidemment le Botico a été fait et les 4 joueurs des Falcons eux ont gelé, ils ont regardé le ballon un petit peu sans se jeter dessus. Là, il y en a qui disent ben ils savaient pas qu'ils pouvaient se jeter dessus avant diverge. Je te garantis, Jean-Nicolas, que je connais aucun coach d'unité spéciale qui dit pas ces choses-là à ses joueurs au camp d'entraînement. Ces gars-là, ils jouent au football depuis tellement longtemps en plus. Ils étaient tous au courant de la règle. Mais honnêtement, c'est une des premières fois qu'on voit une sorte de botteco comme ça, avec le ballon là, très à plat, qui tournait beaucoup. On dirait que ça a vraiment endormi un petit peu les joueurs des Falcons. Évidemment, ça a permis aux Cowboys de récupérer le ballon après diverge. Et ce qui devait arriver arriva. Le miracle s'est produit avec le botté de placement réussi pour donner la victoire là, in extremis aux Cowboys 40-39. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les Cowboys n'ont pas abandonné dans ce match-là. T'sais, ils auraient pu fermer les livres bien avant. Puis du côté des Falcons, ben écoute, c'est pas la première fois qu'on échappe ce genre de match-là. Évidemment, là, on se rappelle tous du Super Bowl où ce que les Falcons menaient 28-3 face aux Patriots. Je pense que c'est un des matchs qui nous vient immédiatement en tête. Mais c'est le genre de match que les Falcons échappent de façon régulière, puis ça devrait pas. Ça aurait dû être une victoire des Falcons. Les Falcons devraient être 1-1. Et là, ils se retournent à Atlanta. Ils sont 0 victoire, 2 défaites. Ceux qui pensent d'ailleurs du côté de Dan Quinn, qui va perdre son boulot immédiatement, j'ai des sérieux doutes, surtout de ce que j'ai vu là du propriétaire Arthur Blank. Lui, il a comme resté positif. Il dit, ben là, il reste quand même 14 matchs. On fait des choses positives. L'attaque va bien. Mais oui, l'attaque va bien du côté d'Atlanta, mais c'est quand même le fromage gruyère là, en défensive. Là. Tout est ouvert. C'est un gros party présentement, jouer contre la défensive des Falcons. Donc moi, c'est vraiment le match qui a retenu l'attention. Tu peux pas passer à côté de ce match-là. Il y en a eu des très bons, il y en a eu plein qui se sont finis là, à la fin. Je pense évidemment aux Chargers puis aux Chiefs, mais ce match-là était incontournable là, dans la fin.
Et Dallas qui évite le départ 0-2.
Ouais, effectivement. Ils deviennent premier dans la division.
Ouais. Avec Washington.
Écoute, si on parlait exact avec l'équipe de Washington, mais si on parlait de la force de la division des Niners, des Rams, la NFC East, c'est probablement c'est vraiment aux antipodes. C'est de loin, je pense, la division la plus faible. Et ça ne fait pas mentir non plus en ce début de saison.
Puis Jean, juste renchérir une seconde sur Dan Quinn. C'est sûr que c'est pas fini là, cette semaine, mais je pense quand même que c'est un peu le début de la fin. Je vois mal comment les Falcons vont se remettre de cette défaite-là. C'est le genre de défaite qui marque. À moins qu'ils se réveillent puis que ce soit là, une série de victoires à plus finir, j'ai l'impression que tôt ou tard, Dan Quinn, ça va être fini, là, peut-être même avant la fin de l'année si ça continue à se réveiller.
Dan Quinn a besoin d'un minimum d'une saison positive cette année. Il peut pas finir 500 ou en bas de 500. Il se doit d'être dans le positif. Puis évidemment, c'est pas très, très bien parti pour l'instant.
On fait une pause, les gars, et après la pause, ce sera les 4 essais pour notre match du jour.
Here comes touchdown! Here comes touchdown! C'est Red Cashin.
On est de retour à la zone payante et c'est nos 4 essais. On commence par le premier essai. On donne la roche à Jean. Jean, quel est ton premier essai aujourd'hui?
Moi, c'est les carrières là, qui pilent des statistiques et des passes de toucher. à n'en plus finir, tu sais, des Ryan Tannehill de ce monde qui ont six passes
de toucher déjà.
Ouais, et je reconnais plus mon Tannehill. Russell Wilson est présentement pète la ligue. Tu sais, il y en a eu beaucoup là en fin de semaine. Josh Allen, 4 passes de toucher, aucune interception en fin de semaine. Des performances comme ça, il y en a beaucoup. Tu sais, avant, il y en avait peut-être une ou deux. Là, c'est multiple, là. C'est des 6-7. Comment expliquer ça? Honnêtement, ben moi, ce que je vois, c'est que ça va commencer à devenir la norme dans la NFL. C'est le résultat de l'effort de la Ligue pour augmenter les pointages puis favoriser les attaques. C'est exactement ça. Puis en anglais, quand tous les facteurs sont réunis, on appelle ça un « perfect storm », c'est exactement ça. C'est une tempête parfaite. Les règlements qui ont changé, qui aident vraiment beaucoup les attaques. T'sais, en 1978, ça a été la première fois qu'il y a eu la règle du pas de contact après 5 verges. Ça commençait là, à favoriser les attaques. Mais dans les dernières années, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus, là, les punitions de contact illégales, de retenir dans la tertiaire. Ces punitions-là ont vraiment augmenté, donc ça a commencé à favoriser évidemment les offensives. Protéger les carrières, pour moi aussi, ça a été une règle qui aide vraiment à l'attaque. Là. Présentement, quand tu as un carrière numéro 1 qui joue, ben il risque de rester en santé parce que c'est beaucoup moins physique qu'avant. Il faut que tu le frappes d'une certaine façon, tu peux pas le frapper à la tête. Dans le fond, ils sont protégés, ils sont là un peu plus en sécurité aussi qu'avant, puis il veut pas, il y a la confiance qui s'installe, puis les règlements aussi pour les coups à la tête, ça aussi je pense que ça aide un petit peu les attaques, cette espèce de peur d'attaquer le centre du terrain pour les receveurs, elle n'est plus présente, puis c'est correct, j'ai aucun problème avec ça, c'est ça que la NFL voulait, mais ça reste que c'est ça aussi, ça devient extrêmement difficile pour les maraudeurs, tu sais, dans le temps là, on avait les Ronnie Lott, tu sais, des maraudeurs, tu sais, Steve Atwater, des maraudeurs qui imposaient le respect, qui frappaient très très fort quand il y avait un receveur ou un ailier rapproché qui osait aller là dans le centre du terrain. Ben cette part-là évidemment est rendue diminuée parce qu'ils peuvent plus nécessairement frapper à la tête. Il faut qu'ils frappent là, exactement au bon endroit, au bon moment.
Donc ça. Donc Jean, est-ce que dorénavant n'importe qui va pouvoir être carrière dans la NFL, puis ça va pas prendre un super athlète ou un joueur hors du commun?
Ben je pense que ça aussi la NCAA a beaucoup à voir aussi dans l'admiration là, des carrières. Je pense que le coaching s'est vraiment amélioré dans la NCAA. Il y a eu aussi, je pense, une adaptation dans la NFL. La NFL aussi s'est adaptée puis elle a inclus certains là, concepts de qu'on voyait beaucoup plus dans la NCAA, dont le zone read, dont les carrières mobiles aussi, je pense, qui ont changé aussi l'allure de la NFL, là. Tu sais, Lamar Jackson, c'est un plaisir de le voir jouer, mais Lamar Jackson n'existait pas avant dans la NFL, là, parce que c'était pas ce genre d'attaque-là qui était favorisé par les entraîneurs-chefs, les commentateurs à l'attaque. On disait que ça pouvait pas exister, que ça marcherait pas. Mais évidemment, le contraire a été prouvé. Puis maintenant, ben on met beaucoup, beaucoup de points sur le tableau indicateur.
C'est vrai qu'à l'époque, dès qu'un corps arrière s'envolait avec le ballon, là, tout le monde voulait le frapper fort pour que ce soit sa dernière course du match.
Oui, mais je pense que les corps arrière mobiles aussi apprennent tranquillement à être en mesure de courir, mais essayer de se protéger aussi. Je pense qu'ils font un meilleur boulot là-dessus. Mais c'est sûr que quand tu cours, il y a quand même certains risques là, qui vont toujours demeurer quand même.
Les corps arrière mobiles aussi à l'époque, tu sais, on essayait de les transformer, ça devenait des Cordell Stewart, ça devenait des joueurs un peu de spécialité, là, si tu veux, à mon avis. Tu sais, il y en avait quelques-uns là, qui en faisaient une carrière. Là, tu sais, Randall Cunningham a très bien fonctionné, c'était un corps mobile. Mais je veux dire, c'était vraiment une denrée rare. Puis on dirait que c'était pas accepté. Il fallait les transformer, il fallait les impliquer d'une autre façon dans le plan de match. Alors que maintenant, ben on accueille ça, puis c'est bienvenu, c'est une ressource de plus pour l'attaque. Là. Je pense que ça, c'est une mentalité qui a beaucoup changé dans la NFL.
Ouais, puis le fait aussi que je pense que les carrières sont nettement plus près à jouer rapidement dans la NFL. Ouais. Ça aussi, ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Tu sais, dans le temps, les carrières, ça leur prenait 2-3 ans avant d'être capable de jouer de façon correcte dans le circuit. Là, c'est plus nécessairement le cas. Les gars, ils arrivent du college. Puis on l'a encore vu en fin de semaine. Josh Herbert a été très, très bon pour les Chargers. Il s'est fait dire qu'il commençait dans le réchauffement. Ça, il faut le faire quand même. Puis il a quand même très, très bien joué. Il est resté calme. Joe Burrow fait du très, très bon boulot présentement avec les Bengals. Je pense que c'est ça. Je pense que ça a été bien expliqué.
Tu me donnes le ballon pour la transition parce que je vais y aller avec mon deuxième essai avec Stéphane. Stéphane, est-ce que Burrow devrait jouer le match de la semaine prochaine si Tyrod Taylor est en santé? Parle-nous un peu de la condition des carrières recrues en ce début de saison.
OK, tu disais Burrow, mais tu parlais plus d'Herbert avec les Chargers. Oui,
exact.
Moi, ça fait aucune espèce de doute dans mon esprit. Faut que tu continues avec Herbert, mais là-dessus, on n'est pas d'accord. Anthony Lynn et moi, là, l'entraîneur-chef des Chargers, lui, il l'a confirmé, il a dit déjà, aussitôt que Tyrod Taylor est prêt à revenir, c'est notre carrière, c'est notre partant. J'ai trouvé dur, même, il m'a dit, Justin Herbert est notre réserviste, pis c'est pas pour rien, il y a des raisons pour ça. Il a trouvé qu'il avait pas si bien joué en fin de semaine face aux Chiefs. Il a été critique à son endroit. J'ai trouvé ça particulier parce que moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu d'Herbert. Ce qui est différent de Tyrod Taylor, moi, c'est le conservatisme aigu de Taylor. Je suis plus capable. Il a été partant de 2015 à 2017. Là, c'est quand même un échantillon assez raisonnable avec les Bills à l'époque. Puis justement, Taylor était dans le personnel d'entraîneur. Pas Taylor, mais Lynn était dans le personnel d'entraîneur des Bills. Donc, il y a comme une espèce d'idylle, on dirait, entre les deux, là. Mais tu sais, Taylor, c'est un corps.
Oui, parce que j'aurais tendance à dire que la personne qui a été conservatrice en prolongation, ça n'a pas été Taylor qui était pas sur le jeu. Ça a été le coach à 4-1 qui a dégagé, là, qui a redonné le ballon.
On en reparlera de ça, c'est certain, parce que ça, c'est de quoi aussi qui m'a bien tanné d'Anthony Lynn en fin de semaine. Mais pour rester sur cette question-là, tu sais, Taylor, il a jamais surpassé 20 passes de toucher dans une saison. Il a jamais surpassé 3000 verges. C'est un carrière là, qui typiquement va avoir à peu près entre 6.7, 6.9 verges par passe tentée. Tu sais, il est très, très, très conservateur dans ses choix de jeu. Herbert est arrivé en fin de semaine sans la moindre expérience professionnelle. 9.4 verges par passe tentée. Moi, je l'ai vu essayer des passes que Taylor aurait jamais essayé en 100 ans. Tu sais, des fenêtres très serrées au milieu du terrain. Il s'est pas gêné pour prendre des risques calculés. Je dis pas qu'il a joué un match parfait. Je dis pas que là c'est la révélation de l'année dans la NFL, mais je pense qu'il a fait suffisamment pour montrer à l'équipe et à l'entraîneur que ok, on a de bonnes chances d'aller gagner, d'aller battre une grosse équipe avec un joueur comme lui, alors que Taylor la semaine d'avant contre Cincinnati, qui est une défensive poreuse à souhait, là. Il n'a pas pris de chance. Je pense qu'il n'a même pas complété 50% de ses passes, ou en tout cas dans ces eaux-là. C'était vraiment pas convaincant. Je sais pas ce qu'il a fait pour mériter autant la confiance du personnel d'entraîneur. Mais pour moi, ça, c'est une décision que je m'explique très mal. Là, par contre, pour les autres recrues, c'est sûr que Burrow, lui, ça continue. On se pose pas de questions. Tua, la grande question à Miami, quand est-ce qu'il va embarquer? Écoute, pour l'instant, lui, c'est différent là, de la situation d'Herbert. Je suis pour, moi, que les jeunes jouent. La seule chose de son côté, c'est qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence en raison de la blessure qu'il a subie sur la scène universitaire. Tu sais, une dislocation de la hanche, là, c'est quand même pas comme si il s'était cassé un ongle en jouant, là. C'est une blessure qui est très, très, très sérieuse, qui demande beaucoup de temps. Il faut opter là, pour un maximum de prudence. Donc, je pense que les Dolphins vont être patients. S'ils voient que leur saison va plus nulle part après la semaine de bail, je sais pas, il est quand leur bail, les Dolphins? Mais tu sais, ça pourrait être une option à évaluer là, sérieusement. Mais pour l'instant, c'est correct. On y va avec le vétéran. Tua, ben, il se remet à 100% de sa blessure pendant ce temps-là, continue d'apprendre sur les lignes de côté. Mais je pense quand même que tôt ou tard, avant la fin de la saison, là, on va le voir embarquer sur le terrain.
En passant, j'ai une théorie, moi, pour Tyrod Taylor, que t'as peut-être pas abordé, Stéphane.
Vas-y.
Ce gars-là doit avoir des photos compromettantes de l'entraîneur-chef. c'est la seule explication possible.
Ouais, je vois pas d'autre chose. C'est un bon point, j'y avais pas pensé.
Eh oui, c'est en air du Me Too, là. Peut-être qu'il va se retrouver sur une liste.
peut-être.
Hey, les gars, on y va avec notre troisième essai. Je veux vous entendre. Après deux semaines, il y a plusieurs équipes 0-2. On parlait d'Atlanta tantôt. Mais quelle équipe qui a pas de victoire qui réussira, d'après vous, à se faufiler en série? Là, qui mérite pas son sort en ce moment à 0-2?
Écoute, j'ai juste fait une petite recherche statistique. Là. Depuis 2002, dans le format à peu près actuel, à part cette année, parce qu'évidemment, on rajoute une équipe, là, mais
ouais.
Les chances là, sont de 11% de voir une équipe 0-2 se faufiler en série éliminatoire. C'est quand même pas beaucoup, hein. Tu sais, c'est juste deux matchs de jouer, puis déjà t'es à 11% au niveau statistique. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Selon moi, faut que tu regardes les faiblesses de la division pour peut-être espérer voir une équipe là se faufiler en série. Puis quand je regarde les équipes de 0-2, je regarde la division de la NFC East. Ben pour moi, c'est peut-être les Eagles qui ont encore des chances de revenir puis de brouiller les cartes. Ça reste que ils sont juste à un match présentement d'être champion de division. Ça reste que c'est pas une mauvaise équipe, les Eagles. Ils sont encore frappés par beaucoup de blessures, comme l'an dernier. Mais je sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, ils étaient un peu dans une situation similaire. Ils ont eu une série de victoires. Ils ont finalement fini champion de division. Je dis pas que ça va être le cas cette année, mais pour moi, c'est peut-être l'équipe qui a le plus de chances.
Steph?
C'est pas un mauvais choix. Honnêtement, moi, ça serait parmi mes candidats, les Eagles, c'est sûr. Mais je vais y aller, moi, avec les Texans de Houston. Tu sais, ils sont 0-2. C'est pas le résultat que t'espérais, c'est sûr. Mais écoute, quand tu commences ta saison, back-to-back contre les Chiefs, contre les Ravens, il y a pas grand monde, je pense, qui s'attendait à ce que les Texans soient pas 0-2. C'est pas une surprise comme telle. Ça veut pas dire
ils en vont jouer à Pittsburgh en fin de semaine.
Tu sais, ça sera pas facile. Mais après ça, tu vois, là, déjà à la semaine 4, les Vikings qui connaissent des ennuis vraiment incroyables. Ensuite, semaine 5, les Jaguars de Jacksonville. Tu sais, t'as une chance de remonter la pente tranquillement. Puis le point de Johnny est bon. Tu regardes la division. Bon, il y a les Titans qui commencent fort, mais ça reste une équipe Tennessee là, qui est quand même mystérieuse. On n'est pas convaincu à 100% que c'est une puissance. Les Jaguars de Jacksonville, les Colts, très bon match en fin de semaine, mais contre les Vikings, qui, comme je le disais, connaissent toutes sortes d'ennuis, on n'est pas encore convaincu non plus. Il y a une place à prendre là, du côté de la division sud de l'AFC. Donc, je pense que les Texans, faut pas désespérer. C'est un début de saison difficile, c'est sûr. La défensive va vraiment en arracher toute l'année. Mais avec Deshaun Watson au poste de corps arrière, t'es jamais sorti à 100% d'un match. Les Texans, là, à mon sens, pourraient aller chercher quelques victoires. Puis, se faufiler en série, oubliez pas une chose, là, cette année, c'est 14 équipes et non 12. Il y a bien, ça veut dire ça, en bon français, que tu peux avoir une saison de 7 victoires, 9 défaites, puis passer en série. Donc, je suis pas en train de dire que ça va prendre une saison extraordinaire
à 12 équipes.
Ben, c'est ça. Ça prendra pas nécessairement une fiche fabuleuse pour les Texans. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher 7 victoires, 8 victoires? Je pense que oui. Il faut peut-être pas se fier au début de saison qu'ils ont eu contre les deux équipes qui sont probablement les deux meilleures de la NFL en ce moment.
OK, merci Stéphane. On prend un temps d'arrêt, les boys. On va réfléchir à notre jeu pour le quatrième essai.